Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi politique. Notre invité ce soir, le président de l'UDI, la formation centriste. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde.
Bonsoir.
Dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons de votre parti qui a décidé de ne pas participer à la primaire de la droite. Un accord avec les Républicains est-il encore possible ou êtes-vous décidé à présenter un candidat à la présidentielle? Vous nous éclairerez sur l'avenir de l'UDI. Nous évoquerons également la loi travail présentée aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Avant cela, nous allons nous arrêter sur la menace terroriste en Europe et en particulier en France, une semaine après les attentats de Bruxelles. À mes côtés ce soir pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir.
Et Christophe Forcari du quotidien Libération. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
C'était il y a une semaine, l'Europe était une nouvelle fois frappée par le terrorisme après Paris. C'était au tour de Bruxelles d'être la cible de l'organisation de l'État islamique avec une nouvelle fois un bilan très lourd. Le continent doit-il s'habituer à vivre avec cette menace terroriste, avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, Jean-Christophe Lagarde?
Est-ce que cet attentat est le dernier? Évidemment non. Il y aura donc d'autres attentats, sans doute d'ailleurs dans notre pays. On a appris qu'un autre était en cours de préparation. Il semble que les services de sécurité aient pu l'éviter. S'habituer n'est pas le mot. Mais il faut être en capacité de résister en réalité à l'émotion qui nous étreint tous, à la colère qui se lève progressivement, évidemment, contre les barbares qui nous font la guerre, et de résister parce que leur but, le but du terrorisme, c'est à partir d'un acte d'une violence inouïe, sauvage, barbare, nous faire réagir et nous faire dévier de ce que doit être à la fois la défense de nos valeurs et la défense de nos intérêts. Ils veulent en réalité créer des tensions chez nous, créer des tensions qui pourraient aller jusqu'à la guerre civile, bref, exporter leur guerre. Et je vais vous dire une chose, j'ai été très choqué par ce que j'ai entendu dans la bouche de M. Mélenchon ce week-end. Il disait que si nous renoncions à aider la coalition à combattre Daesh en Syrie et en Irak, on n'aurait plus de problème vraisemblablement en France. Il faut savoir ce qu'est Daesh. C'est un projet politique qui s'abrite derrière une religion et c'est un projet de califat mondial. C'est-à-dire chez nous aussi. Et c'est pas parce qu'on les laisserait se développer et prendre plus de puissance en Syrie et en Irak que nous aurions la tranquillité chez nous. Au contraire, on leur a laissé prendre beaucoup trop de puissance et c'est bien parce qu'ils maîtrisent à la fois des villes, de l'argent, des ressources pétrolières, de la logistique, bref, qu'ils ont tous les moyens d'un État ou d'un proto-État, qu'ils peuvent aussi organiser, financer, commanditer un certain nombre d'actions terroristes contre nous, mais contre la Tunisie, contre le Mali, contre beaucoup de pays de la région. C'est un califat qui a la visée d'une domination mondiale sous une idée absolument folle et nihiliste de la religion musulmane.
On peut voir la situation sur le terrain en Syrie. L'armée syrienne a repris Palmyre le week-end dernier. L'organisation de l'État islamique visiblement perd du terrain. Est-ce que ça veut dire que Bachar el-Assad revient dans le jeu, là?
Mais il est revenu à l'évidence. Et il y a une erreur française absolue de considérer qu'on pourrait, dans la région, régler le problème sans la Russie. Et sans la Russie, si la Russie a décidé de soutenir Bachar el-Assad, on était bien obligé d'en tenir compte. Je ne dis pas que M. Assad est quelqu'un d'extraordinaire, je ne dis pas que c'est le plus grand démocrate de la Terre, il a même gazé sa population civile. Bien évidemment que c'est un dictateur sanguinaire. Mais il se trouve que entre Daesh qui nous fait la guerre, et qui est une dictature encore plus sanguinaire, et Bachar el-Assad qui ne nous fait pas la guerre, déjà il fallait savoir prioriser nos adversaires. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline n'était pas un grand démocrate. Nous étions son allié pour abattre Hitler. Ça ne veut pas dire que c'était devenu notre ami. Je ne pense pas que M. Assad doit devenir notre ami, mais tant qu'il est soutenu par Poutine, et Poutine, pardon de le dire, est en train de faire la démonstration qu'il n'avait pas tort. C'est cynique, c'est horrible, c'est désagréable. Mais il n'en reste pas moins qu'en rétablissant, entre guillemets, le pouvoir de Bachar el-Assad sur une partie de la Syrie, il oblige aussi à Bachar el-Assad à venir à la table des négociations de ses opposants. Et s'il a retiré ses forces militaires ou une grosse partie de ses forces militaires après avoir sauvé le régime d'Al-Assad qui était en train de disparaître,
et aidé à reprendre Palmyre,
d'ailleurs il fait exactement ce que nous aurions dû faire, nous en Irak, ce que je dis depuis des mois, il ne s'agit pas d'un engagement militaire conventionnel, mais que nos forces spéciales aident les Kurdes, qu'on méprise, alors que ce sont les seules forces militaires organisées qui combattent véritablement Daesh. Les aider par nos forces spéciales à reprendre des territoires, à les reconquérir. Faire de même avec les Irakiens, ça n'engageait pas une guerre lourde, c'était une guerre moins, comment dirais-je, politiquement correcte que celle des bombardements, mais sans doute plus efficace. Et je répète, je le dis depuis des mois, tant que Daesh maîtrisera ses communes, ses territoires, cette logistique et ses financements, nous aurons encore à subir ce type d'attentat.
Christophe Forcari.
Donc je constate d'abord que vous avez un discours vis-à-vis de Vladimir Poutine plus mesuré ou pondéré par rapport à l'ensemble de la classe politique. Mais est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faut continuer les frappes aériennes contre Daesh? Est-ce que la France doit intensifier son effort de guerre, le poursuivre, l'intensifier et éventuellement réfléchir à une intervention au sol? Ou est-ce que cette dernière solution vous semble totalement bannie?
Ce n'est pas la France, pour le compte. C'est à la fois la France, la Russie. Une clarification de nos relations avec la Turquie qui joue un double jeu insupportable pour quelqu'un qui est censé être allié dans l'OTAN et qui en plus voudrait rentrer dans l'Union européenne, ce à quoi je suis totalement opposé, et on pourra y revenir. Intensifier les frappes aériennes, nos moyens militaires ne nous le permettent sans doute pas beaucoup plus que ça. En revanche, qu'un certain nombre de pays occidentaux, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis puissent, comme la Russie le fait avec des forces spéciales, aider les combattants. Si Palmyre est tombée aussi rapidement, ce n'est pas que grâce aux forces de Bachar al-Assad au sol, et ce n'est pas que grâce aux bombardements russes. C'est aussi parce que des forces spéciales ont rapidement délogé. Alors l'histoire de la Palmyre, je voudrais qu'on puisse en dire un mot. C'est important à deux titres, mais ça n'est pas la fin de la guerre, loin de là. C'est important d'abord parce que Daesh veut se faire passer pour une espèce d'envoyé de Dieu qui serait invincible. La défaite montre qu'en réalité, ce n'est qu'un régime, barbare, mais un régime qui peut être battu militairement. C'est important aussi parce que ça ouvre la voie de Raqqa et que ça peut permettre... Attention, quand on parle de Raqqa et de Mossoul, on va rentrer dans des territoires sunnites, c'est-à-dire des territoires qui ne se laisseront pas libérer si facilement que ça par des Kurdes, par des chiites ou par d'autres communautés religieuses. Donc la guerre n'est pas finie, elle va prendre du temps. Or, notre intérêt collectif, pour notre sécurité collective, c'est qu'elle s'arrête rapidement. Donc oui, non pas une force au sol avec de type la guerre Irak où on envoyait des milliers de personnes, mais un appui beaucoup plus soutenu, au moins avec nos forces spéciales qui, comment dirais-je, peuvent utilement venir en appui de forces kurdes, notamment réellement héroïques et qui sont une fois de plus ceux qui sont en train de se faire piéger par l'histoire, notamment du fait du comportement de la Turquie et pas seulement de la Turquie.
Une dernière question sur la Syrie.
Que des pays sunnistes doivent avoir leur propre coalition pour combattre Daesh?
Je pense qu'on est obligé d'avoir tout le monde dans la même coalition. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs coalitions pour un ennemi. D'ailleurs, on voit bien que dans l'hypocrisie, évidemment...
Il y en a plusieurs aujourd'hui avec Vladimir Poutine, puisqu'il ne fait pas de la partie de la coalition...
Oui, mais c'est une hypocrisie, madame. C'est une hypocrisie, tout le monde le sait.
Ah ben, oui.
Si le directeur de la CIA se trouvait à Moscou il y a quelques jours, c'est pas un total hasard. Si Obama et Poutine se sont parlé de la Syrie et de l'Irak, c'est pas un total hasard. Et d'ailleurs, je lisais, je ne sais pas si c'est exact, que les Américains avaient eux aussi frappé à la Palmyre pour dire grosso modo qu'il n'y a pas de contact officiel, mais les services secrets sont à l'œuvre, ils se parlent et ils coordonnent leurs efforts. Alors il n'y a pas de coalition politique commune. Bon, mais pour revenir au fond de votre question, bien évidemment qu'on ne pourra pas non plus obtenir une stabilisation de cette région s'il n'y a pas les pays sunnites d'un coup. Et tout ça se passe sur fond d'affrontements régional entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est ça sans doute d'ailleurs qui est le plus inquiétant pour parvenir à une réussite. Quand vous mettez l'affrontement entre l'Arabie saoudite et l'Iran d'un côté, le jeu on ne peut plus trouble, pour ne pas dire plus, de la Turquie, l'impuissance des États-Unis à trouver avec ses alliés une politique commune, et la détermination de Poutine de ne pas laisser s'effondrer le pouvoir alaouite, le pouvoir de Bachar al-Assad en place, ça fait beaucoup d'ingrédients. Je pense on peut les réunir. C'est en train de se faire entre les États-Unis et la Russie. Je pense que la France est aussi très grandement absente de ces jeux-là parce qu'elle a pris une posture qui est moralement satisfaisante, mais qui a été politiquement et militairement totalement désastreuse.
Allez, revenons maintenant sur les attentats en eux-mêmes, les attentats de Bruxelles de la semaine passée. Les autorités belges sont depuis pointées du doigt pour toute une série de dysfonctionnements. L'Union européenne n'est pas non plus épargnée par les critiques. Comment faire pour lutter efficacement contre le terrorisme à l'échelle européenne? Est-ce que la solution, c'est un meilleur échange d'informations entre les services de renseignement?
Ça ne sera pas suffisant. Ce qui est hallucinant, c'est qu'au moment où nous sommes attaqués, vous avez tout un tas d'irresponsables qui nous expliquent qu'il faut surtout, d'abord et avant tout, rétablir les frontières, cloisonner les pays entre eux, etc. Je voudrais ici profiter de rappeler deux choses. D'abord, nous avons déjà eu des attentats sur notre sol, en 1982, en 1986, en 1995. Des attentats alors que nous avions des frontières, des gardes-frontières, des douaniers. Il n'y avait pas de liberté de circulation. On a quand même eu des attentats en France de terroristes qui venaient de l'étranger et qui passaient donc les frontières. Aujourd'hui, une partie de ces terroristes ne viennent pas de l'étranger. Ils sont présents sur notre sol. Ils sont français. Les douaniers seraient totalement inefficaces à leur encontre. On nous propose de rétablir les frontières contre des gens qui sont déjà à l'intérieur. Il y a quelque chose de fou dans cette idée-là. Alors qu'on s'aperçoit, au fil des attentats, le musée juif de Bruxelles, malheureusement les attentats à Paris, ceux qui viennent encore d'avoir lieu à Bruxelles, que si les frontières existent aujourd'hui, elles existent seulement pour nos polices, pour nos services de renseignement et pour nos magistrats. Et c'est pas seulement de la coopération dont nous avons besoin. Les frontières, elles n'arrêtent ni les grands bandits, ni les terroristes. Elles n'arrêtent que l'action policière qui ensuite a besoin de coopération. Nous, nous sommes pour qu'on crée un parquet fédéral européen, une police fédérale européenne qui permette un parquet, une police, des juges, et qui permettent de lutter contre les grands trafics, les grands banditismes et évidemment les terroristes. Ça serait beaucoup plus efficace. Au lieu de vouloir défaire l'Europe, on a au contraire besoin de la construire, de la rendre utile, qu'elle ne soit pas en permanence.
On n'arrive même pas à faire une Europe de la défense depuis des années. C'est un serpent de mer.
Pardon, c'est un autre sujet. C'est beaucoup plus facile de le faire. Si, c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet. Il s'agit des questions militaires, mais de sécurité.
Ne suis pas sûr que quand on parle de terrorisme, en l'occurrence, on est dans le militaire pur, puisque là, on parle d'attaques sur notre sol. Je suis en train de dire simplement que si vous avez un parquet, vous avez les mêmes chefs d'inculpation, vous avez les mêmes enquêteurs, vous n'avez donc pas besoin d'échange d'informations, ce sont les mêmes services. Si vous avez une police fédérale, c'est la même chose. Quand vous passez de l'État du Texas à l'État de la Louisiane aux États-Unis, le FBI, il a zéro frontière. Quand vous passez de la France à la Belgique, il y a une frontière, faut demander l'autorisation d'échanger, etc. Alors ça s'est amélioré, on voit tout de suite les résultats. Imaginez ce que ce serait si les mêmes services, partageant les mêmes renseignements, les mêmes signalements, les mêmes enquêtes, travailler ensemble dans la même organisation. Ce serait efficace contre le terrorisme, mais aussi d'ailleurs contre les grands trafiquants de drogue, d'armes qui se jouent de nos frontières depuis toujours. Et d'ailleurs, on voit bien que les connexions qui existent entre le terrorisme intégriste ou islamiste et le grand banditisme sont très fortes. Parce qu'à Molenbeek, une des raisons qui a permis à Salah Abdeslam de se cacher pendant 4 mois, c'est d'abord et avant tout parce qu'il était aussi lié et il avait en soutien les réseaux du grand banditisme.
Et alors justement, venons-en à cette commune de Molenbeek, qui est depuis le mois de novembre sous le feu des critiques. Nombre d'observateurs voient dans cette commune bruxelloise un des principaux foyers du djihadisme en Europe. Patrick Kanner a dressé dimanche un parallèle entre Molenbeek et certaines villes françaises. Le ministre de la Ville était l'invité de nos confrères d'ITélé.
Il y a aujourd'hui, on le sait, une centaine de quartiers en France qui présentent des similitudes potentielles avec ce qui s'est passé à Molenbeek. Mais il y a une différence énorme aussi. Et je suis vraiment de tout cœur avec nos amis belges, et je n'ai pas de leçons à donner à la Belgique et ou à ses pouvoirs publics. Mais il est vrai que nous prenons le taureau par les cornes.
Une centaine de quartiers en France présentent des similitudes avec Molenbeek, a dit le ministre. Des propos qui vous ont mis en colère, Jean-Christophe Lagarde.
Oui, parce que je pense que ça infantilise, que ça débilise le débat français, le débat politique français, quand on le tronque ou quand on le fausse.
C'est trop caricatural, en fait.
Bah d'abord, je suis très inquiet parce que j'entends le sonore, comme vous dites, qui dit « on le sait ». Ah bon ? Le ministre de la Ville le sait, le ministre de l'État de l'Intérieur l'ignore ? C'est grave. C'est grave, parce que si effectivement il a raison, la question n'est pas de venir le déclarer en public, la question c'est qu'est-ce que l'État est en train de faire contre ? Est-ce qu'on a mis des collectivités sous tutelle si jamais elles étaient effectivement sous influence ? Est-ce qu'on a fermé des associations, fermé des salles de prière ? La réalité, c'est que d'abord tout le monde parle de Molenbeek sans savoir ce qu'est Molenbeek. Pardon de vous le dire, c'est pas parce qu'on s'y intéresse depuis une dizaine de mois qu'on connaît la réalité de cette ville-là. Et j'ai entendu beaucoup de réactions des responsables politiques français qui n'ont jamais mis les pieds à Molenbeek, qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Et assimiler tel ou tel territoire français à ce territoire bien spécifique, à ce territoire, j'y viens tout de suite, c'est bien pour ça que moi je suis plus prudent que les autres. Je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas bien. J'essaye de m'y renseigner. D'accord. Je vais vous prendre un exemple, madame. Est-ce que les politiques français qui parlent sans arrêt savent qu'à Molenbeek, on a d'abord et avant tout une population issue du Maroc et du Rif marocain. Ils connaissent l'histoire du Rif marocain par rapport à l'État marocain, de l'implication dans le trafic de drogue et de la reconstruction communautaire à Molenbeek. Est-ce qu'il y a ça dans le territoire de la République française ? Avant de commenter, il faut savoir. Voilà ce que j'aimerais avoir. Voilà ce que. Oui, mais justement, il faut comprendre. Ouais. Et malheureusement, vous avez eu beaucoup de commentaires.
On a un Premier ministre
en pour ou en contre.
Dit que comprendre, c'est excuser.
Ça, je ne crois pas du tout. Je pense que comprendre, c'est commencer à vouloir soigner. Parce que comprendre, ça ne veut pas dire accepter ce qui se passe. Ça veut dire faire un diagnostic. Et je ne connais pas de bonne médecine, de bons médicaments, de bons traitements, s'il n'y a pas au départ un bon diagnostic. Je voudrais venir sur une chose. Je pense qu'il y a des quartiers qui, aujourd'hui, plus des quartiers que des villes, peuvent être soumis à une pression communautaire. Parce que ghettoisation, et ça, les ghettos français, ça fait des années qu'on en parle, mais...
Qui peuvent être des terrains fertiles au djihadisme, donc.
Non, je ne suis pas sûr, parce que quand vous regardez plus de la moitié des terroristes qui ont été arrêtés...
Ne viennent pas forcément de ces quartiers.
Ne viennent pas de ces quartiers. Deuxième chose, les mosquées salafistes ne se trouvent en général pas dans ces quartiers, monsieur. En revanche, qu'il y ait des pressions religieuses dans tel ou tel endroit, ça c'est vrai. Et est-ce que l'État et les élus locaux ont toujours eu la réaction qu'il fallait ? D'abord par insouciance, parce que dans notre tradition, on pensait que tout se passait bien finalement, que la religion avait sa place dans la société à part, et puis qu'elle ne venait pas empiéter sur l'espace public. Quand elle vient empiéter sur l'espace public, ou dans l'entreprise, c'est un sujet qu'on va devoir aborder rapidement, me semble-t-il, est-ce que l'espace public, l'entreprise, le lieu de travail, est un lieu de neutralité religieuse ? Moi, je le crois. Parce que sinon, je ne sais pas comment on peut vivre ensemble. Ou plus exactement, c'est la seule façon que je vois pour faire face à des revendications religieuses qui, en réalité, s'imposent aux autres. La laïcité, c'est un principe simple. Tu crois ce que tu veux ou tu ne le crois pas. Tu pratiques, évidemment, la religion comme tu l'entends. Tu ne l'imposes en rien aux autres, ni parce que tu le fais par prosélytisme, ni parce que tu le fais...
Mais au nom de cette laïcité, est-ce qu'on n'a pas laissé faire des choses ? C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu s'en mêler, que ce soit sur les mosquées, sur les financements, etc. Est-ce que trop de laïcité a tué
Si vous le permettez, je viens sur les mosquées et le financement, mais d'abord c'est l'inverse. C'est parce qu'on a été insouciant au niveau de la laïcité, qu'on a laissé se développer des phénomènes, pas des Molenbeek, mais des phénomènes de pression religieuse, d'abord sur la communauté musulmane elle-même, qui le subit, je veux le rappeler, et ensuite, parfois, sur certains quartiers. Sur le financement, madame, je vais vous faire une réflexion qui peut choquer. En réalité, l'État français, de très longue date, puisque la première fois, c'était sous une monarchie, la seconde fois, c'était sous un empire, s'est donné le droit d'organiser les religions. Philippe Auguste l'a fait avec la religion catholique, c'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Napoléon Bonaparte l'a fait avec la religion juive. C'était, je crois, en 1804. En 1905, on a à nouveau régulé les rapports entre, en réalité, l'État et la religion catholique. On doit, aujourd'hui, organiser l'islam de France, parce que les musulmans ont besoin d'être protégés contre ces pressions et l'État français a besoin d'en avoir un interlocuteur qui soit un régulateur.
Christophe Forcarrier.
Oui. Est-ce qu'au contraire, dans certains départements, et notamment celui que vous connaissez bien, la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas eu la tentation à un moment de laisser s'exprimer des revendications communautaires, de laisser s'exprimer une forme de communautarisme pour avoir la paix sociale et puis, disons-le, pour aussi conquérir les faveurs d'un électorat très particulier.
Comme cela a pu visiblement se passer du côté de Molenbeek.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne dis pas pour le maire de Drancy que vous êtes, mais est-ce que de la part de certains élus, il n'y a pas aujourd'hui cette tentation avec, quand même, il faut le dire, des visées électorales.
Très rapidement, je peux corriger juste une chose. Aujourd'hui, je suis moins sûr qu'hier. Hier, je crois que ça a pu arriver. Là encore, dans une insouciance par rapport aux complications, aux implications, je pense qu'il y a quelques villes où ça a pu arriver, dans des combats politiques d'ailleurs assez particuliers, il y a des villes qui ont été citées. Je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'au point qu'on évoque en règle générale. Mais moi, je ne comprends pas qu'on ait pu laisser des activités réservées aux femmes dans certains endroits, qu'on ait pu transiger sur la viande halal à l'école, qu'on ait pu... Voilà, ce genre de choses-là ont été des renoncements à la laïcité. C'est pas le trop de laïcité qui pose problème, c'est le défaut de laïcité. Et y compris, on laissait se développer un discours insupportable de la part de milieux intégristes, qui est la laïcité, c'est une arme islamophobe. Non, la laïcité, c'est quelque chose qui s'applique à toutes les religions.
Parce que rien n'est interdit,
en l'occurrence, à un musulman qui serait autorisé à un catholique, et vice-versa. Il n'y a donc pas de difficulté là-dessus.
En 30 secondes, François Hollande, au lendemain des attentats du mois de novembre, avait promis une révision de la Constitution. Il va prendre sa décision dans les heures qui viennent. A priori, elle est mornée, cette révision de la Constitution.
Je le crois, puisque le président de la République s'est lancé dans une aventure où il n'a pas été capable de comment dirais-je, réunir et de convaincre.
Sur la déchéance de nationalité notamment.
La déchéance de nationalité, moi la version du Sénat ne peut pas me convenir puisqu'elle crée une distinction entre les Français et les Sénats n'a pas été convaincu par la volonté de l'Assemblée nationale. À partir de là, je ne vois pas très bien comment on va à Versailles pour modifier la Constitution. Je le regrette.
Merci Jean-Christophe Lagarde. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans un peu plus de 5 minutes pour parler notamment de votre parti, l'UDI, et de la loi travail. À tout de suite.